Je vous propose, dans un premier temps, d'essayer de comprendre ce que cet événement de la transfiguration de Jésus sur la montagne a apporté aux apôtres qui y ont assisté. Dans un deuxième temps, nous nous demanderons ce que le rappel de cet événement nous apporte à nous aujourd'hui, 2026, en plein carême. Il fut transfiguré devant eux. C'est de cette manière que Jésus dévoila quelque chose de son identité divine à Pierre, Jacques et Jean, trois de ses apôtres. L'évangéliste Matthieu n'était pas au nombre de ces trois-là, mais c'est lui qui rapporte l'événement et nous dit que Moïse et Élie leur sont apparus. Pierre, Jacques et Jean ont dû raconter cela à Matthieu. Mais nous pouvons nous demander comment ils ont pu reconnaître Moïse et Élie. Évidemment, ils ne les avaient jamais vus, puisque ces deux prophètes ont vécu des siècles plus tôt. Et à l'époque, on était loin d'avoir inventé la photographie. Nous pouvons penser que Jésus a nommé Moïse et Élie au début de leur entretien. Nous pouvons penser aussi que Jésus n'était pas du tout impressionné face à ces deux immenses figures de l'Ancien Testament, mais que c'était le contraire. Élie et Moïse devaient être dans leurs petits souliers face à Jésus. D'ailleurs, la voix céleste qui déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie, écoutez-le », n'a pas parlé de Moïse ni d'Élie, mais de Jésus. Cette scène devait préparer les apôtres à accueillir l'événement de la résurrection de Jésus, impensable pour eux. Et nous voyons dans les évangiles de Pâques leur difficulté à accepter cette vérité, même avec Jésus en face d'eux. Certains ont besoin de toucher, d'autres ne le reconnaissent pas. Ils n'étaient pas vraiment à la hauteur. Et malgré l'événement de la transfiguration, ça restera laborieux pour eux. Nous voyons que la proposition de Pierre de dresser trois tentes est complètement à côté du sujet. Un autre évangéliste a fait ce commentaire, Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Et puis nous savons que les deux autres, Jacques et Jean, quelque temps plus tard, feront à Jésus une demande complètement décalée par rapport à ce qu'ils ont vu. Ils demanderont à Jésus de siéger à sa droite et à sa gauche dans son royaume, ne pensant qu'à leur carrière, qu'à leur gloire personnelle. Et à l'heure de la Passion, aucun d'entre eux ne sera capable de suivre Jésus jusqu'au bout. Ils resteront accablés. Pierre le reniera trois fois. Jésus les aura pourtant prévenus. Certes, Jean sera au pied de la croix, mais comme les autres, accablés. Pourtant, le souvenir de l'événement sur la montagne leur sera utile pour la suite, pour saisir la cohérence du parcours de Jésus et accepter de poursuivre leur chemin avec lui après l'ascension, alors qu'ils ne pourront plus le voir. Voilà ce que Jésus voulait leur offrir. Et à nous, que dit la transfiguration de Jésus aujourd'hui? Pour le savoir, je vous propose de faire le rapprochement entre l'Évangile et la première lecture. Comme chaque dimanche, il y a toujours un lien. Aujourd'hui, nous avons entendu d'abord le récit de la vocation d'Abraham, qui ne s'appelait pas encore Abraham, père d'une multitude. Quel pourrait être le rapport entre la vocation d'Abraham et la transfiguration de Jésus ? Je me suis longuement posé la question et je vous propose ceci. Peut-être trouverez-vous autre chose, parce que l'Esprit Saint travaille aussi chez vous. Au livre de la Genèse, nous observons la docilité et la foi d'Abraham. C'est un Dieu inconnu de lui qui lui demande de quitter son pays pour une destination inconnue. Et il y va. Eh bien, je crois qu'à la transfiguration, Jésus nous donne un aperçu de ce pays inconnu qu'Abraham devait rejoindre. C'est le royaume de Dieu, dans toute sa splendeur. Visiblement, Moïse et Élie y sont déjà, et nous saurons dans un autre texte au détour d'une parabole, celle du riche et du pauvre Lazare, qu'Abraham a fini par y arriver, lui aussi. Il faut bien nous dire que Jésus lui-même n'a jamais quitté ce pays-là. Il n'a jamais cessé d'être Dieu, comme son Père. Nous l'avons chanté dans un des couplets du chant d'entrée, avec cette expression « Fils d'avant les siècles, avant le temps, avant le début de l'univers, qui marque aussi le début du temps, il était Fils, Fils éternel du Père. » Et ce Fils éternel voile habituellement sa divinité aux yeux des hommes. Ce jour-là, pour les trois apôtres, il lève le coin du voile, momentanément. Ce qui doit surtout nous faire réfléchir, nous émerveiller, c'est que comme Abraham, le Fils de Dieu éternel a entrepris lui aussi d'explorer un autre pays, un pays jusque-là inconnu de lui, physiquement je veux dire. Il s'agit de notre condition humaine dans laquelle il a voulu entrer de plein pied. Il y a une différence avec Abraham. Dans sa grande aventure, le patriarche était mu par la foi. Mais dans sa grande aventure de l'incarnation, Dieu le Fils, qui n'avait pas besoin d'avoir la foi, était mu par l'amour, l'amour de nous et l'amour de son Père, qui l'envoyait au milieu de nous. Il y a une autre différence avec Abraham, elle se situe au niveau de l'ampleur du sacrifice qu'ils ont accepté. Alors qu'Abraham, pour une destination inconnue, a laissé la proximité de sa parenté, alors qu'il a renoncé à ses repères sur un territoire connu de lui, où il faisait paître habituellement ses troupeaux, donc à une relative sécurité, le Fils de Dieu a sacrifié beaucoup plus. Il a fait un grand écart, infiniment plus grand. Parce que, par son incarnation, il a accepté de faire abstraction de ses attributs divins et de descendre dans le monde des hommes marqué par le péché. Il n'y a rien de plus contraire à Dieu que le péché, puisque le péché consiste à lui tourner le dos. Et cela lui a beaucoup coûté. Jésus l'a révélé à une mystique du 19e siècle au Mexique. Une mère de famille qui a été fondatrice de plusieurs œuvres religieuses, qui a été béatifiée sous le pape François en 2019, et qui s'appelle la bienheureuse Conchita Cabrera de Armida. Elle a écrit pas mal de choses suite à ses conversations avec Jésus. Et elle rapporte ces paroles de lui. L'homme dégradé avait besoin d'un remède qui fut une sorte de dégradation de la divinité. Non pas au sens d'une diminution, mais d'un abaissement, d'un oubli de sa dignité, pour ainsi dire. Cet anéantissement inouï, cette union du tout avec le rien, et pire encore avec le péché, c'est-à-dire avec le crime, la malice, la noirceur, a constitué le plus grand des supplices de l'incarnation. Fin de citation. Oui, dès son enfance, Jésus a souffert intérieurement par le fait de côtoyer le péché. Le péché, c'est le refus de l'amour, c'est le rejet de Dieu. Mettons-nous à sa place. Lui qui n'a pas cessé d'être Dieu au milieu des hommes pécheurs. Nous pouvions penser qu'avant sa passion, Jésus avait mené sur terre une existence heureuse et sans souffrance. En réalité, avant la croix extérieure, il a vécu de grandes croix intérieures. C'est lui qui le confie à la bienheureuse Conchita. Mais nous avons dans les évangiles un indice à ce sujet. Avec cette confidence faite un jour à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Cette angoisse n'était pas la peur de souffrir, mais plutôt le souci de nous, qui étions encore pleinement soumis à la loi du péché, l'angoisse de notre salut. Jésus a donc aussi souffert de son désir angoissé de nous sortir de notre misère morale et de toute la souffrance qu'elle engendre chez nous et autour de nous. En ce temps de carême, nous sommes invités à méditer ainsi sur la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Peut-être cela nous aidera-t-il à prendre quelques moyens pour mieux y répondre. Quels petits pas pourrions-nous faire pour laisser le Seigneur nous aider à quitter notre pays, c'est-à-dire telle ou telle mauvaise habitude, notre routine, notre paresse confortable, pour participer avec lui à l'œuvre de notre salut et de celui de nos frères.